Nala et Damayanti. Nala, fils de Virasena, qui gouvernait le royaume du Nishada, était un souverain accompli. Sa beauté lui fait prendre pour l'amour descendu sur la terre, versé dans la connaissance des Védas, généreux, brave, habile à conduire les chevaux et les éléphants, adoré des femmes, il était sans rival parmi les hommes. Une seule tâche venait ternir ce soleil de perfection, Nala était possédée par la passion du jeu. Son royaume, ses sujets, il eut tout engagé sur un coup de dé. Heureusement, les dieux qui le protégeaient lui avaient épargné jusque-là pareille faute. À la même époque, vivait une princesse merveilleusement belle qu'on appelait Damayanti. C'était la fille chérie du vaillant Bhima, roi des Vidarbhins. Indra lui-même regardait avec complaisance l'aimable enfant et songeait à lui choisir un époux parmi les immortels qui sont les gardiens du monde. Mais la Vierge royale avait d'autres pensées. Ses longs yeux se baissaient timidement lorsqu'on exaltait devant elle les mérites du roi de Nishada. Nala, de son côté, rêvait souvent à cette petite princesse dont tout le monde vantait les grâces surnaturelles. Sans s'être jamais vus, les jeunes gens éprouvaient un plaisir indéfinissable à entendre parler l'un de l'autre et leur imagination évoquait l'image inconnue qu'il paraît de tous les charmes. C'est ainsi que le duo aux cinq flèches excelle à se glisser sournoisement dans deux cœurs naïfs et confiants. Sous prétexte de chasser, le roi s'enfonçait au plus épais des bois, mais son arc et ses javelots restaient inutiles. Les cygnes, les oies, les gazelles passaient impunément devant lui. Le gibier n'a rien à craindre d'un homme véritablement épris. Un jour pourtant, hasard ou fantaisie, au milieu d'un groupe d'oiseaux voyageurs, Nala attrapa un beau cygne et il se disposait à l'emporter. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque l'habitant des airs, prenant une voix humaine, lui dit « Je t'en supplie, grand roi, épargne ma vie et rends-moi la liberté. Pour reconnaître ce bienfait, je te promets de parler si bien en ta faveur à Damayanti qu'elle n'aimera jamais un autre homme que toi. » La main qui retenait l'oiseau s'ouvrit et la troupe ailée s'enfuit vers le royaume de Vidarbha. Entourée de ses nombreuses compagnes, Damayanti folâtrait dans les jardins du sérail. C'était au printemps, les arbres venaient de renouveler leur parure et se couvraient de pousses d'un vert tendre. Les gazons étaient émaillés de fleurs fraîchement écloses. Tout à coup, la princesse aperçut une volée d'oiseaux qui s'abattait sur les bocages, en lignes si serrées que l'air en était obscurci. L'agréable divertissement de donner la chasse à toute cette bande emplumée. Les belles rieuses de se mettre aussitôt à courir. C'est un vrai tourbillon. Femmes et cygnes sont confondus, on ne distingue rien que des cols qui se penchent. Mais les malicieux oiseaux savent se dérober coquettement et fatiguer leurs charmantes adversaires. Dans cette course folle, Damayanti se montre la plus ardente. Le cygne qu'elle poursuit s'arrête enfin et s'élançant sur l'épaule arrondie de la jeune fille, lui murmure à l'oreille « Charmante princesse, il existe un roi, le plus beau des hommes, comme tu es la perle des femmes. C'est Nala, le seul époux digne de toi. » Et, agitant son plumage de neige, le cygne disparaît, mais la Vierge reste frappée au cœur. Impossible de se le dissimuler plus longtemps, elle l'aime, ce héros, dont la renommée chante les louanges. Une langueur que les médecins ne peuvent guérir s'empare de la princesse. Les contours harmonieux de son beau corps s'amaigrissent, son visage se décolore, seuls ses yeux brillent d'un feu étrange et semblent s'allonger sous le cercle bistré qui les entoure. Plus de sommeil la nuit, plus de jeu le jour, désormais les compagnes de Damayanti sont impuissantes à la distraire. Personne n'y comprend rien. On avertit le roi qui, mieux conseillé par la tendresse paternelle, s'avise que la princesse a 15 ans et qu'il est temps de la marier. D'accord avec les ministres, il fait proclamer à son de cloche le Swayambhara, assemblée où une jeune fille choisit parmi les prétendants à sa main celui qu'elle préfère. Il fait proclamer à son de cloche le Swayambhara de sa fille bien-aimée. grantez-moi au ciel et sur la terre, parmi les dieux et les rois. Tous ceux qui ont le droit d'aspirer à la main de Damayanti se dirigent vers la capitale du Widarba. Nala n'est pas le dernier à se mettre en route. Quatre dieux l'aperçoivent sur son char, traîné par de magnifiques éléphants enguirlandés de fleurs. Les gardiens du monde restent en extase devant la beauté de ce mortel et, descendant de la voûte céleste, ils arrêtent au passage. Naishada, tu nous as toujours été dévoué. Aujourd'hui, nous avons besoin de tes services. Sois notre ambassadeur dans une affaire importante. Que faut-il faire? Je le ferai, répond sans hésiter le pieux monarque. Regarde-nous si tes yeux peuvent supporter l'éclat de notre gloire. Tu as devant toi Indra, Ani, Varuna et Yama qui aspirent à la main de la belle Dayamanti. Cours la prévenir de notre arrivée et défends nos intérêts de telle sorte qu'elle choisisse l'un de nous pour époux. Dieux immortels, qu'exigez-vous de moi? Puis-je plaider votre cause, moi qui viens ici dans le même but? Et d'ailleurs, quelle influence un homme peut-il avoir sur la femme qu'il aime éperdument? Ma langue restera muette rien qu'en voyant celle qui s'est emparée de mon âme. Tu l'as promis, tu ne peux plus t'en dédire. Allons, point de réplique, obéis sans plus tarder. De grâce, Seigneur Indra, une seule observation. Comment pourrais-je pénétrer auprès de la princesse? Souvenez-vous que les appartements des femmes sont étroitement gardés et que les ordres du roi sont terribles. N'est-ce que cela qui t'arrête, mortel timide? Indra saura bien t'introduire dans le gynécée. » Et par la puissance du dieu, Nala se trouva à l'instant transportée dans l'intérieur du sérail. Le jeune homme resta quelques minutes étourdi d'un voyage si rapide. C'était l'heure du repos. Les femmes de Damayanti s'empressaient encore autour d'elle. Les lampes venaient de s'éteindre et les œils de bœuf laissaient pénétrer librement la fraîcheur du soir. La Vierge royale était étendue sur une couche de soie et de duvet de cygne, aussi légère que les nuées qui flottent dans l'air après les pluies d'automne. Les rayons de la lune caressaient doucement la gerbe dénouée d'une chevelure incomparable. Les prunelles étaient cachées sous les pointes vacillantes des cils noirs, et les deux grands yeux, fermés au milieu de cette tête charmante, semblaient un lotus dans la corolle duquel se serait endormie une abeille. Les lèvres brillaient comme des rubis, rien n'avait encore terni leur rougeur éclatante et la bouche d'un vainqueur ne leur avait jamais fait sentir son avide pression. Le pâle contour des joues ressemblait au bouton de Champaka avant qu'il ne soit devenu vermeil. Quelques gouttes de sueur glissaient çà et là sur les épaules, sur les bras et sur le sein que soulevait le feu de la jeunesse. Le corps souple reposait dans une attitude languissante et négligée. Le héros tressaillit en surprenant les secrets de cette beauté sans tache. Le héros tressaillit en surprenant les secrets de cette beauté sans tache. Fleur dont le doux parfum n'avait pas été respiré, fruit dont l'arôme savoureux n'avait pas été goûté, Nala devait-il renoncer à vous posséder et plaider une autre cause que la sienne? Cependant, les femmes du sérail avaient jeté un cri en apercevant un homme. On avait précipitamment rallumé les lampes. La colère de ces demoiselles s'évanouit à l'aspect de Nala et la bienséance put seule contenir l'expression de leur admiration. « Était-ce un homme ? » pensait-elle. « N'est-ce pas plutôt un Gandharva ou un Yaksha ?» Gandharva, musicien du ciel d'Indra, Yaksha, gardien des trésors du dieu des richesses. Au bruit qui se faisait autour d'elle, Damayanti rouvrit les yeux et aperçut celui qu'elle n'avait encore vu qu'en rêve. Elle se souleva toute rougissante. « Parle vite ! Qui es-tu ? À moins d'être venu sur l'aile d'un génie, comment es-tu entré ici ?»« Pardonne ma hardiesse, noble princesse. Je suis envoyé près de toi par les dieux et c'est grâce à eux que j'ai pu arriver jusqu'ici sans être vu. » Indra, Ani, Varuna et Yama aspirent tous quatre à ta main et te pressent de choisir l'un d'eux pour époux. Nala s'arrêta, épuisé par l'effort qu'il venait de faire. Il y a des missions pénibles à remplir. Un sourire candide s'épanouit sur le visage de Damayanti. Je respecte et j'adore les dieux, dit-elle, mais c'est toi seul que j'ai choisi pour époux. Je n'ai pas de plus grande richesse que moi-même, et je me donne à toi, Seigneur, en toute confiance. Ne l'as-tu pas deviné? L'amour me consume, et c'est dans l'espoir de devenir ta femme que j'ai fait convoquer l'assemblée des rois. » Devant cette tendresse si franche et si ingénue, le héros se sentait faiblir, mais, fidèle au devoir et à la foi juré, il reprit « Comment pourrais-tu préférer un homme quand les immortels t'adressent leurs vœux ? Tu les dédaignerais pour celui qui n'égale pas la poussière de leurs pieds ? Tu refuserais Annie, le souverain des êtres, qui doit un jour consumer la terre ? Yama, qui retient les hommes dans le devoir par la crainte des châtiments ? Varuna, le seigneur des eaux ? Indra, le roi des dieux, le maître du tonnerre et le fléau des Danavas ? Je t'aime, Nala. À mes yeux, tu es plus grand que tous. Si tu me repousses, je chercherai dans le poison, le feu ou les eaux, le seul remède à ma douleur. Ah, oh, mon amour égale le tien. Si je brûlais nuit et jour avant de te connaître, que sera-ce maintenant, fille incomparable ? Mais hélas, n'oublions pas que je suis venue ici pour défendre les intérêts des autres et non les miens. Si je trahis la confiance des dieux, ne crains-tu pas pour moi, ma bien-aimée, la vengeance de ces êtres puissants qui peuvent donner la mort ? Devant cet argument terrible, un ruisseau de larmes s'échappa des yeux de Damayanti. C'est la ressource suprême des femmes quand elles n'ont plus rien à répondre. La troupe des amis pleurait aussi. Qui ne se fût attendri sur ces deux êtres si bien faits l'un pour l'autre qu'un destin inflexible semblait séparé à jamais ? Soudain, la princesse releva la tête. L'espoir illuminait ses grands yeux dont l'éclat faisait pâlir la lumière des lampes. « J'ai trouvé un moyen qui concilie tout. Présente-toi demain à mon Swayambhara. Là, devant tous, je te choisirai pour mon époux. » Les dieux n'auront rien à te reprocher, et s'ils éprouvent quelque dépit, leur colère retombera sur la seule coupable. Et maintenant, adieu, noble guerrier. Sors au plus vite du sérail où l'on pourrait te surprendre. » Nala obéit, mais sur le seuil de l'appartement, il se retourna une dernière fois. Penché hors de sa couche, la Vierge le suivait des yeux d'un air passionné qui semblait dire « Je t'envoie mon cœur, qu'il ne revienne plus. » Toutes les splendeurs asiatiques avaient été prodiguées pour la cérémonie du Swayambhara. À l'heure dite, les rois se pressaient sous l'arcade qui donnait accès dans un amphithéâtre gigantesque. Au milieu, une estrade, soutenue par des colonnes d'or, avait été élevée pour tous les prétendants. À les voir ainsi, planant sur la foule, avec leurs bras robustes pareils à des massues, leurs chevelures bouclées, leurs sourcils arqués, leurs yeux brillants, leurs guirlandes parfumées et leurs pendants d'oreilles étincelants de pierreries, l'œil était ébloui. On eût dit de grands lions rassemblés sur la montagne. Damayanti parut la dernière, suivie des 200 femmes, amies ou suivantes qui formaient son cortège habituel. Toutes portaient des parasols de soie et des bannières aux couleurs éclatantes. Un cri d'admiration s'éleva à la vue de la princesse plus belle que jamais. Parmi tous les prétendants, aucun en ce moment qui ne fît des vœux pour sortir vainqueur de ce tournoi pacifique. On proclama les noms des rois et ils défilèrent lentement devant la fille de Bhima. Mais ici se produisit un incident étrange. Les dieux, usant de ruse, avaient pris tous les quatre la forme de Nala et cinq figures identiques passèrent devant la jeune fille. Quelle angoisse ! Comment s'y reconnaître ? En cette occasion, Damayanti adressa aux dieux un appel qui fut entendu. La prière de cette âme pure, dont l'amour était si dévoué, toucha les immortels. Immédiatement, la jeune fille distingua les dieux avec tous les caractères qui leur sont propres, exempt de sueur et de poussière, le regard immobile et le corps ne touchant pas la terre, tandis qu'elle voyait Nala avec ses deux pieds appuyés sur le sol, son ombre s'allongeant sur le sable, ses yeux qui clignaient, son front humide de transpiration et ses guirlandes flétries. Elle marcha vers le héros et, avec un gracieux embarras, lui jeta une guirlande autour du cou. Ainsi fut déclaré le choix de la Vierge royale. Les applaudissements de toute l'assemblée saluèrent le vainqueur et les dieux confus s'enfuirent en riant ironiquement. Dans le fond de l'âme, Bhima regrettait de ne pas être devenu le beau-père d'un dieu, mais il n'opposa aucune résistance à l'hymen de Nala et de Damayanti. Les noces furent splendides. On célébra le sacrifice du cheval et l'on fit toutes les offrandes usitées en pareil cas pour se rendre les divinités favorables. Puis le roi du Nishardha emmena sa jeune épouse dans ses états. Là, ce couple qui avait triomphé de tant d'obstacles goûta le bonheur le plus parfait. Toutes les heures que le souverain pouvait dérober aux affaires, il les passait avec Damayanti au milieu des jardins et des bois d'alentour. Deux enfants, un fils et une fille, naquirent de cette union qui promettait une suite de jours heureux. Mais ici-bas, toute félicité se péchait et ce bonheur si complet devait avoir un lendemain cruel. Le génie malfaisant, nommé Kali, avait lui aussi soupiré pour la princesse. En apprenant son mariage, il fut saisi d'une colère terrible et jura de se venger. La cuirasse de vertu qui enveloppait Nala avait un défaut, le roi était joueur, nous le savons déjà. Ce fut par ses côtés faibles que s'introduisit l'ennemi. Il entra dans le corps du prince, qui, plus que jamais, fut possédé de la passion du jeu. Il accepta avec empressement une partie de dés que vint lui proposer son frère Pushkara. Tous deux engagèrent le jeu, calme, presque indifférent. Ce n'est d'abord qu'un passe-temps agréable, les dés sont agités d'une main joyeuse et un égal espoir anime les adversaires. Mais Kali est là qui veille. La chance tourne vite contre le roi. Son or brut ou monnayé, ses chars, ses attelages, ses bijoux, ses vêtements, il perd tout successivement. À chaque coup, les dés retombent avec un bruit strident, marquant leur inimitié contre Nala. On sent que c'est le désespoir qui les lance dans l'espace. Le joueur s'obstine. Il tremble, il chancelle. Depuis 3 jours, il n'a pris aucune nourriture et l'insomnie rougit les angles de ses paupières. On entend des cris au dehors. Ce sont les ministres et le peuple qui veulent pénétrer auprès de leur souverain pour l'arracher à une lutte insensée. Ils forcent les portes et arrivent au moment où Nala n'a plus à perdre que son royaume. Dans son délire, le malheureux n'entend ni les remontrances de ses conseillers, ni les supplications de celle qui eut tant de pouvoir sur son cœur. Ses yeux hagards ne voient que les dés, il les menace, il les invoque, il espère toujours, et tant qu'il lui restera un enjeu, sa main crispée agitera les instruments de sa ruine. La reine, le peuple, les dieux eux-mêmes, du haut du ciel, suivent d'un œil fasciné cette partie suprême. Pour la dernière fois, les dés retombent avec un bruit sinistre. C'en est fait, le beau royaume de Nishada n'appartient plus à Nala. Pushkara regarda sa victime en ricanant. « Poursuivons, dit-il, je t'ai gagné tout, excepté Damayanti. Eh bien, si tu m'en crois, fais ton enjeu avec Damayanti. » Mais le démon qui trouble Nala recule devant cette profanation de l'amour. Sans répondre, l'infortuné arrache ses parures, les jette dédaigneusement aux pieds de son adversaire et s'enfuit d'un pas rapide. Damayanti vient de renvoyer, sous la garde d'un serviteur fidèle, ses 2 enfants au roi Bhima. Elle est à la porte du palais, attendant son époux. La terreur enchaîne les regrets du peuple. Le cruel Pushkara a menacé de mort quiconque essaierait de suivre le couple royal. Abandonnés de tous, Nala et Damayanti quittent la ville où ils ont régné. Ils marchent au hasard dans la forêt. La rage serre le cœur de Nala. « Oh, dés !» s'écrie-t-il, « noirs combattants qui vous emparez de l'âme du joueur, vous qui ne cédez ni aux menaces ni aux prières, et devant qui les rois courbent la tête, charbon céleste qui me brûlait de désirs et de regrets, vous qui m'avez tout pris, je vous maudis, ô dés impitoyables. Et toi, femme innocente, dois-tu porter le poids de mes fautes? Voici devant nous la route du sud. Là-bas, derrière les monts Vindhya et la rivière Payoshni, se trouve le grand royaume de Vidarbha. C'est là que tu dois vivre désormais, auprès de tes parents. Viens-y donc avec moi, cher époux. Mon père sera heureux de nous offrir l'hospitalité et de réparer les torts de la fortune à ton égard. Y songes-tu reparaître en mendiant dans ces lieux où je me suis montré avec toute la splendeur de la royauté? Implorer la pitié de ton père, moi qui me considère encore comme son égal? Eh bien alors, je ne te quitterai pas. Roi puissant, je t'ai aimé, pauvre et sans ressources, combien je t'aime davantage. Si je pouvais te faire oublier tes chagrins, le bonheur habiterait avec nous cette forêt désolée. Privés de tout bien, nous serions riches encore. Il resterait à Nala mes bras pour le soutenir, ma voix pour le consoler et mon sein pour reposer sa tête. Ô Damayanti, les dieux ont fait la femme dévouée pour consoler l'homme affligé. Je ne me plaindrai plus du sort, ma bien-aimée. Depuis 4 jours, les fugitifs marchent sans relâche. Ils sont exténués de fatigue, de faim et de soif. Une cabane déserte se présente sur leur route. Ils y entrent et tombent vaincus par le sommeil. Mais bientôt, Nala se réveille. Kali, le mauvais esprit, le travaille et lui souffle des pensées d'orgueil. La voilà donc couchée sur le sol, sans natte et sans couverture, celle qui ne posait ses pieds que sur des tapis moelleux. La boue et la poussière souillent son teint délicat que n'avait jamais effleuré ni le vent ni la pluie. Nala a-t-il bien le droit de condamner à tant de privations l'illustre princesse qu'il a choisie entre tous? Vivre ainsi, déchu, auprès de la femme aimée, quelle humiliation! Mieux vaudrait mourir! Le roi va et vient dans la cabane. Son cœur subit une lutte violente. Lui parti, Damayanti retrouverait sans doute de meilleurs destins. Mais laissée seule dans les bois, exposée à la dent des tigres et des serpents, la douce créature qui s'est endormie confiante sous sa protection, aura-t-il ce triste courage? 20 fois, il sort entraîné par Kali, 20 fois, la tendresse le ramène. Le démon l'emporte enfin. Les yeux obscurcis par les larmes, le héros jette un dernier regard sur celle qu'il abandonne. « Femme adorée, s'écrie-t-il, puissent les dieux t'environner de leur protection. Puisses-tu, loin de Nala, trouver le bonheur qu'il n'a pas su te donner ?» Et cette fois, il s'enfuit éperdu sans oser tourner la tête. Vers le matin, Damayanti s'éveille souriante. Ses yeux cherchent Nala. Elle l'appelle doucement d'abord, puis avec des cris perçants. Les échos se répètent les accents déchirants qui se pressent sur ses lèvres. « Quoi ? Est-ce possible ? Oh, Nala, aurais-tu profité de mon sommeil pour m'abandonner, comme l'éléphant qui délaisse sa compagne dans la forêt solitaire ? T'aurais-je offensé, oh mon Seigneur ? Me suis-je plainte jamais ? Mes pieds ne t'ont-ils pas suivi à travers les ronces qui les déchiraient ? Hier, oubliant la faim qui me torturait, n'ai-je pas endormi tes souffrances avec mes caresses ? Mais je suis folle de m'inquiéter. Tu n'es pas parti, caché derrière un buisson, tu épies ma douleur, tu m'entends pleurer et tu ne viens pas me consoler, ingrat. C'est un jeu cruel, cesse-le au plus vite. » Et de nouveau, elle s'élance en courant comme une antilope qui veut rejoindre son troupeau, mais bientôt, elle ne peut plus douter de la triste vérité. « Hélas, dit-elle, ce n'est pas lui qui est coupable, il est plus à plaindre que moi. Que deviendra-t-il privé de sa compagne ?» Dévouement sublime de l'amour véritable. Elle s'oublie elle-même et cherche des excuses pour celui qui l'a précipité dans le malheur. Damayanti n'a pas aperçu un serpent boa qui se jette sur elle et veut la mordre. Les cris de l'infortuné sont entendus par un chasseur de gazelles. Il accourt et dirige sur le reptile sa flèche acérée. La bête tombe immobile. La princesse, qui s'était évanouie, rouvre les yeux. Sa faiblesse et le désordre de ses vêtements la rendent bien séduisante. Les perfections de son corps se révèlent sous les haillons, son sein nu se soulève tout palpitant, ses beaux cils recourbés se lèvent languissamment et sa voix devient plus douce encore en remerciant son libérateur. Pour rester insensible au fond des bois, dans un tête-à-tête avec une pareille beauté, il faudrait la vertu d'un saint. Diamanti devine la pensée qui trouble le chasseur. D'un geste, elle repousse violemment l'audacieux qui roule à l'instant sur le sol pour ne plus se relever tel qu'un arbre fracassé par la foudre. Comme toujours, les dieux étaient venus en aide à leur protégé. Elle reprend sa course. La vue des tigres aux grandes mâchoires l'effraie moins que celle des hommes aux passions criminelles. Elle rencontre sur sa route des troupeaux de buffles et d'éléphants, des ours, des lions, des léopards, des panthères, sans compter les sauvages, les voleurs, les ratchkas aux formes hideuses. Elle meurtrit ses membres délicats aux branches entrecroisées des arjonas, des bambous, des jambousiers et des buissons épineux. Elle gravit les rochers, elle s'égare dans des grottes, elle entend bruire des torrents et bouillonner des cascades, elle traverse des marais, côtoie des étangs, des lacs, des rivières. Partout, elle redemande son époux, tantôt en s'adressant à l'arbre Asoka qui détruit le chagrin, tantôt au mont Vindhya, porte-étendard de la forêt dont les 100 pics divisent les nuages. Après toutes sortes de mauvaises rencontres, elle arrive auprès d'un ermitage. Là, de paisibles anachorètes vivent dans la contemplation des choses divines. La princesse leur conte son histoire et finit en leur adressant cette prière. Que les pieux solitaires qui voient l'avenir, grâce à leurs austérités, lui disent si elle reverra Nala. Autrement, elle ne veut plus avoir rien à démêler avec la vie. Tu reverras Nala, répondirent en chœur les ermites, et soudain, les feux consacrés, les cabanes, et jusqu'à la rivière qui coulait à travers la prairie, tout disparaît. Est-ce un rêve? Est-ce un mirage qui s'évanouit? La fugitive se retrouve seule dans la forêt. Elle erre encore quelques jours, au bout desquels elle aperçoit une caravane qui cherche un guet pour traverser un fleuve. L'œil égaré, pâle, amaigri, ses vêtements en lambeaux, sa chevelure souillée de poussière, Damayanti s'approche. Son aspect n'est pas fait pour inspirer la confiance. Plusieurs voyageurs se sauvent en criant. Mieux avisé, le chef de la caravane devine dans cette mendiante une femme d'un rang élevé. « Es-tu la déesse de ces bois ou l'épouse de ce fleuve ?» lui demande-t-il. À cette question, la fille de Bhima répond par une autre question. « Homme vénérable, as-tu vu un guerrier aussi majestueux que le lion qui secoue sa crinière ? C'est le roi Nala, mon époux, que je cherche nuit et jour. » Le chef de la troupe répond qu'il n'a rencontré sur sa route que les animaux de la forêt. Depuis longtemps, la caravane est en marche, mais elle touche au terme de sa course, et bientôt, elle arrivera à Chedi, capitale des états du roi Subahu. Damayanti obtient la permission de se joindre aux voyageurs. Un soir, il campait sur les bords d'un lac tout parfumé de lotus. Là se trouvait en abondance du bois pour se chauffer, des eaux fraîches pour étancher la soif, de grasses prairies pour le bétail, des fruits et du gibier pour les hommes. Tandis que la caravane fatiguée s'endormait après un bon repas, un troupeau d'éléphants sauvages accourt pour boire dans le lac. De loin, ils sentent la présence de leurs pareils attachés avec des cordes. Entraînés par l'instinct, ils se précipitent sur eux, ivres de fureur et d'amour. Quel choc impétueux! On dirait les pics détachés d'une montagne qui s'écrouleraient du sommet à la base. Des clameurs s'élèvent de toutes parts. Les hommes, jeunes et vieux, les enfants et les femmes, encore engourdis par le sommeil, fuient au hasard, se frappant le front contre les arbres ou s'abîmant dans des trous. Les chameaux affolés se heurtent les uns contre les autres, les sacs de marchandises éventrés laissent échapper l'or et les pierreries. Le feu qui vient de prendre achève le tumulte. Au comble de la rage, les éléphants brisent tout avec leurs trompes et leurs défenses, broient sous leurs pieds hommes, bêtes, marchandises et piétinent dans une boue sanglante. Quand le danger est passé, on se compte les uns les autres. Ceux qui survivent ont perdu leur fortune et leurs parents. Quoi, se disent-ils, les planètes nous étaient favorables, qui a pu causer un tel désastre? Bien certainement, c'est cette grande femme à l'œil égaré qui nous a jeté un sort. C'est une Rakshasi, il faut la tuer à coups de pierre. Cachée derrière un arbre, Damayanti entend ses menaces et elle se sauve à travers la forêt. « Ils ont raison, s'écrie-t-elle, je porte malheur à tous ceux qui m'approchent. Quelle faute ai-je donc commise pour être en butte à tant de misère? Serait-ce une vengeance des dieux que j'ai refusé de choisir pour épouser Nala ?» Un soir, enfin, la fugitive arrive dans la ville de Chedi. Les habitants sont réunis sur les places publiques pour prendre le frais. Ils regardent passer avec étonnement cette femme aux vêtements déchirés, aux cheveux épars, qui marche comme une insensée. Les enfants se mettent à l'injurier et à la poursuivre. De la terrasse du palais, la mère du roi a vu ce divertissement cruel et elle envoie sa nourrice pour arracher la pauvre femme aux persécutions de la foule. Damayanti est introduite dans le palais. « Oh, toi, lui dit la reine, qui as les yeux aussi grands que ceux d'une déesse et qui, sous tes haillons, brille comme l'éclair au milieu des nuages, dis-moi, n'es-tu pas une immortelle ?» Instruite par l'expérience, Damayanti juge prudent de dissimuler sa haute naissance. « Grande reine, répond-elle, je suis une humble ouvrière qui, depuis plusieurs mois, erre dans la forêt, me nourrissant de fruits sauvages et reposant ma tête où la nuit vient me surprendre. J'avais un époux que j'aimais tendrement. Possédé de la passion du jeu, il perdit tout notre avoir et s'est enfui au loin pour cacher sa confusion. Depuis ce moment, je n'ai pas pris un jour de repos et je cours le monde pour retrouver celui qui m'a délaissé. » La bonne princesse, tout attendrie, embrasse Damayanti. « Sèche tes larmes, tu resteras avec nous. Ma fille Sunanda a ton âge et tu seras sa compagne. Ne désespère pas de l'avenir, nous enverrons partout des messagers pour découvrir la retraite de ton époux. » La jeune femme accepte avec empressement ses offres inespérées. La voilà désormais à l'abri de tout danger. Revenons à Nala que nous avons laissé au comble du désespoir. Peu après avoir quitté Damayanti, il vit devant lui une forêt embrasée. Chose étrange, du milieu des flammes, une voix criait « Nala ! Nala !» Le héros entre résolument au cœur de l'incendie et, aussitôt, un énorme serpent bleu lui dit « Que les dieux soient loués pour t'avoir amené en ces lieux, auguste prince. Apprends que je suis le roi des serpents. Je fus maudit, jadis, pour avoir manqué d'égard envers la sept Narada, et condamné à rester ici immobile pendant des milliers d'années jusqu'au jour où tu viendrais me délivrer. Pour te prouver ma reconnaissance, guerrier magnanime, je t'indiquerai les moyens de chasser le démon qui te possède. Rends-toi à la ville d'Ayodhya auprès du roi Rituparna. Présente-toi à lui comme un cocher habile dans l'art de conduire les chevaux. Tâche de t'insinuer dans les bonnes grâces du souverain et, en échange de tes services, il t'apprendra la science des dés qui n'a plus de secret pour lui. Tu pourras alors regagner ton royaume à l'indigne Pouskara et goûter encore le bonheur auprès de ta bien-aimée. Mais avant tout, tu vas, par l'effet de ma puissance, changer de forme. Regarde-toi dans cette source, tu n'es plus le héros Nala, aux longs bras et à la vaste poitrine. Tu es le cocher Vahuka, aux membres grêles et difformes. « Ne t'en inquiète pas, voici une couple d'habits célestes, tu n'auras qu'à les revêtir quand tu voudras reprendre ta forme primitive. » Et sur ces mots, le serpent disparaît dans les broussailles. 8 jours après, Nala, fidèle aux instructions reçues, se présenta devant Rituparna et fut acceptée sans difficulté pour diriger les écuries royales. Plus malheureux que Damayanti, il éprouvait un chagrin grandi par le remords. La nuit, à l'heure où d'habitude il s'endormait auprès de sa compagne, ses gémissements redoublaient et il dépeignait sa douleur dans des slokas harmonieux. « Pauvre fou que je suis, coupable envers une épouse dévouée, le sommeil fuit ma paupière, sans cesse je me rappelle ma bien-aimée, si douce et si belle, dont le corps délicat a peut-être été broyé sous la dent des animaux féroces. » Cependant, le roi Bhima avait promis une récompense de 1000 vaches à celui qui retrouverait son gendre et sa fille. Les brahmanes, saisissant avec empressement une occasion de s'enrichir, partent en grand nombre pour les pays étrangers et l'un d'eux, favorisé par le hasard, va dans la ville de Chedi. Reçu au palais, il reconnaît immédiatement, dans la suivante de l'une des princesses, la fille de son souverain. Un signe rouge qui s'épanouit entre les deux sourcils, sur le front pâle de Damayanti, ne peut laisser aucun doute au brahmane. Il proclame devant tous le rang de cet inconnu, si bien accueilli à la cour. « C'était un pressentiment !» s'écrie la reine en serrant la jeune femme contre sa poitrine. « Ta mère et ma sœur, nous sommes les filles du roi Sudaman et je t'ai vue enfant dans le palais de mon père. Tout ce que nous possédons est à toi. » La princesse remercie, mais elle ne demande qu'une chose, c'est d'être reconduite chez les Vidarbins. Elle part et son voyage est moins accidenté que celui qu'elle a fait à travers la forêt. En vain, ses parents la reçoivent avec joie. En vain, ses jeunes amis s'empressent autour d'elle. Rien ne peut la distraire. Elle pleure nuit et jour. Si elle pouvait oublier Nala, les deux enfants, qui sont l'image vivante du héros, le lui rappelleraient sans cesse. D'après son désir, de nouveaux messagers s'en vont de tous côtés, visitant les palais, les cabanes, les ermitages. Ils ne viennent à bout de rien découvrir. L'un d'eux, pourtant, raconte qu'il s'est entretenu avec le cocher du roi Rituparna et que cet homme semble s'être ému au nom de Nala. C'est un bien faible indice, mais le cœur de Damayanti s'y rattache avec énergie. « Retourne dans la ville d'Ayodhya, » dit-elle au messager, « annonce qu'un nouveau Svayambara aura bientôt lieu et que la princesse Damayanti, ne sachant si Nala vit encore, veut choisir un second époux. » Le brahmane obéit. En apprenant la nouvelle, Rituparna fait appeler son cocher et lui demande s'il peut le conduire en 24 heures chez les Vidarbins. Le roi aspire à la main de la princesse et n'en fait pas mystère à Vahuka. Peut-il se douter qu'il a devant lui un rival qui a le droit d'être jaloux? La punition de Nala est terrible. Il s'efforce de cacher les angoisses qui le déchirent. « Misérable que je suis, pense-t-il, le chagrin a-t-il donc égaré l'esprit de ma bien-aimée? Est-ce un moyen qu'elle emploie pour me ramener à elle? Ou bien, hélas, la nature des femmes est si inconstante, mon offense a-t-elle détruit son amour et veut-elle chercher dans d'autres liens le bonheur que je lui ai ravi? En tout cas, je profiterai du désir de Rituparna. J'irai dans la capitale du Vidarbha et je saurai démêler la vérité. » Sans perdre un instant, il entra dans l'écurie. Il choisit 4 chevaux de race, nés sur les bords de l'Indus, pleins de vigueur et de feu. Il les attelle, les flatte doucement avec la main, et sitôt que Rituparna est monté dans le char, il les lance à travers l'espace. Les coursiers traversent les montagnes, les forêts, comme des oiseaux qui fendent l'air. Le roi stupéfait se demande si cette vulgaire enveloppe de Vahuka ne cache pas Matali, le cocher d'Indra. Vers le soir, Nala arrête un instant le char pour laisser souffler les chevaux. Le royal voyageur prend patience en examinant un arbre de l'espèce Vibhitaka. « Mon ami, dit-il à son cocher, personne n'est plus habile calculateur que ton maître. Tu vois cet arbre, mais tu es incapable de distinguer à l'instant le nombre de fruits qu'il porte. Eh bien, moi, je te le dirai sans hésiter. » Il y a, sur les branches principales et sur les rameaux qui les accompagnent, 2100 fruits moins 5. Afin de vérifier cet étonnant calcul, permets-moi, Seigneur, d'arracher l'arbre pour compter plus à l'aise. Kindra me protège. C'est merveilleux, le compte est juste, pas un de plus, pas un de moins. Et que dirais-tu si tu me voyais engager une partie de dés ? « Rien ne résiste à la puissance de mes combinaisons. Je sais déjouer les ruses des adversaires les plus adroits et gagner sans la moindre peine. Je t'en supplie, grand roi, donne-moi la science des dés et, en échange, je te donnerai celle des chevaux. J'y consens, mais tu me jures que demain, avant le coucher du soleil, nous serons chez le roi Bhima. Par les 16 grands royaumes du Jambudvipa, je te le jure, Vahuka tiendra parole. » La leçon commence. L'élève prête une oreille attentive et profite si bien de l'enseignement du roi que le démon Kali se sent vaincu et prend le parti de quitter le corps de Nala. Le faux cocher remonte vivement sur son siège, la fièvre et l'oppression qui le tourmentaient ont disparu. Il est sûr maintenant de regagner son royaume quand il le voudra. Le char vole de nouveau et le lendemain, à l'heure dite, il entre dans la cour du palais avec un bruit pareil à celui du tonnerre. La foule accourt enthousiasmée. Il n'est pas jusqu'aux paons perchés sur les toits ou aux éléphants dans les écuries qui ne poussent des cris joyeux comme si les nuages apportaient la pluie. Du fond de son appartement, Damayanti distingue ses clameurs. Elle tressaille, on dirait qu'elle devine l'approche du bien-aimé. Nala seule, pense-t-elle, savait ainsi faire rouler un char. Et elle envoie aux informations sa fidèle suivante, Kessini. En ce moment, Nala remplissait ses fonctions en conscience. Il venait de dételer ses chevaux, de les panser suivant la règle, et après leur avoir rendu la vigueur, il s'occupait à faire son lit sur le siège du char remisé sous un vaste hangar. Une suivante n'est jamais embarrassée pour lier conversation. La princesse désirerait connaître le motif qui amène les illustres voyageurs. Nala, en garde contre tous les pièges, répond froidement que le roi Ritourparna est venu pour le Svayambara de la fille de Bhima. Et sans plus s'occuper de celle qui le considère avec une curiosité mal déguisée, il va prendre de l'eau dans les urnes pour laver le char. Kessini ne se décourage pas. « N'y a-t-il pas chez le roi votre maître un cocher qui avait été au service de Nala et qui semblait connaître ce qu'était devenu l'époux de Damayanti ?»« On t'a trompé, jeune fille. Nala erre, inconnu, dans le monde. Personne ne peut savoir où il se cache. » Pourtant, le bravane Soudeva est digne de foi. À l'en croire, cet homme disait que la princesse ne devait pas s'irriter contre son époux, mais au contraire, le plaindre d'être tombé dans une pareille infortune. N'essaie pas de le nier, cet homme, c'était toi, Vahuka. Suis-moi et viens répéter à ma noble maîtresse les paroles que tu as prononcées devant le brahmane. » À cette proposition, le flegme de Nala s'ébranle et, d'une voix étouffée par les larmes, il répond « Eh bien, si je l'ai dit, je le répète, abandonnée de son époux, une femme de haute naissance ne se livre pas à la colère. Les épreuves de la vie sont le triomphe de sa vertu et Nala était assez frappée, sans que le sort lui réservât cette douleur suprême, d'être trahie par celle qu'il avait choisie devant le feu sacré à la face des dieux. » Kessini s'empresse de rapporter fidèlement cet entretien à sa maîtresse. Le cœur de Damayanti flotte entre le doute et l'espérance. « Tentons, dit-elle, une nouvelle épreuve. Dans le malheur, un homme peut feindre la joie, il peut sourire aux insultes, garder un visage calme au milieu des tortures, mais présenter à un père les enfants qu'il n'a pas vus depuis longtemps, il se trahira toujours. Conduis mes deux enfants au cocher Vahuka. » La princesse était bien inspirée. En reconnaissant les deux petites créatures qui lui tendent les bras, un cri spontané, irrésistible, s'échappe de la poitrine de Nala. Confus de s'être ainsi laissé surprendre, il se tourne vers la suivante. « Je t'en prie, laisse venir sur mes genoux ces enfants qui ressemblent trait pour trait à ceux que j'ai perdus. » Et il couvre de baisers son fils et sa fille, mettant son langage à leur portée, riant, pleurant et se livrant à tous ces enfantillages qui font le bonheur des pères. « Plus de doute, madame !» s'écrie Kessini en retournant auprès de la princesse. « Sous les traits du cocher Vahuka se cache le héros Nala. Si vous aviez entendu le cri que l'émotion lui a arraché, si vous aviez vu les caresses qu'il prodiguait à vos enfants... » Pour toute réponse, la tremblante Damayanti donne l'ordre d'aller chercher le cocher de Ritourparna et de l'introduire immédiatement. Qu'il est parfois difficile de feindre. Tandis que Vahuka baisse la tête et garde l'attitude respectueuse d'un subalterne mis en présence d'une grande dame, la fille de Bhima tâche de se composer un visage calme. Pendant un instant, les deux époux s'examinent douloureusement. Leur silence est plus expressif que bien des paroles. Si Damayanti écoutait son cœur, elle serait déjà au pied de celui auquel elle a tant à pardonner, mais elle veut tenter une nouvelle épreuve et d'une voix qu'elle s'efforce de raffermir. « Vaouka, as-tu jamais vu un homme connaissant le devoir abandonner la nuit, au milieu d'une forêt déserte, la mère de ses enfants, l'épouse innocente et dévouée qu'il avait choisie entre tous, à la face des dieux ?» Devant cette terrible accusation, Nala oublie son rôle. « Attends pour me juger, s'écrie-t-il. Si j'ai perdu au dé mon royaume, si je t'ai délaissé, c'est qu'une malédiction pesait sur ma tête, c'est que j'étais possédé du méchant démon Kali. Mais toi, qui avais ton libre arbitre, toi que rien n'aveuglait, tu as voulu briser nos liens. Tes envoyés ont proclamé par toute la terre que la princesse Damayanti allait choisir un second époux. Rituparna accourait ici plein d'espérance. Demain, les princes de l'Orient viendront, comme jadis, se disputer ta main. Femme vindicative, tu t'es bien vengée du misérable qui n'a cessé de t'aimer. » N'est-ce pas là le caractère des hommes d'oublier qu'ils sont coupables pour devenir accusateurs ? L'orgueil de Nala s'emporte sur l'ombre même d'un soupçon, mais dans cette injustice, Damayanti ne voit que la jalousie qui lui prouve encore son amour. « Ah ! Dit-elle, tu es toujours celui que j'ai préféré aux dieux, et ce Zayambara qui t'irrite n'était imaginé que pour te ramener à moi. » Tout à l'heure, si j'ai osé parler avec l'accent du reproche, c'était pour que tu te trahisses enfin. Pardonne, c'est la première fois qu'une plainte s'exhale de mes lèvres. Que le vent qui erre dans le monde, que l'astre au rayon chaud qui féconde la terre, que l'astre au rayon froid qui éclaire la nuit, brise à l'instant ma vie si jamais j'ai commis une action indigne de toi. Ô divinité qui toutes trois soutenez le monde, je vous invoque. Levez-vous comme des témoins, dites que c'est la vérité qui sort de ma bouche ou abandonnez-moi sans retour. » Cet appel désespéré venait d'être jeté au ciel lorsqu'une voix s'éleva dans les airs. Nala ne conserve aucun soupçon à l'égard de Damayanti. Le trésor de sa vertu fut bien défendu. Pendant 3 ans, nous avons été les témoins et les gardes de cette épouse fidèle. La fille de Bhima est digne de ton amour. Unis-toi à elle comme par le passé et aime-la davantage s'il est possible. » La voix divine parlait encore et une pluie de fleurs tombait du ciel. Les tambours des dieux résonnaient en signe d'allégresse. Nala, revêtant la robe immaculée d'ombre du naga, reprenait possession de sa forme naturelle et venait tomber entre les bras de sa compagne. Le lendemain, la cité s'éveillait tout en fête, comme au jour du mariage de Nala, les rues étaient jonchées de fleurs et les maisons pavoisées d'étendards. Rituparna, confus d'avoir traité en subalterne un des plus grands monarques du monde, offrit de nouvelles leçons à Nala, qui devint passer maître dans l'art de lancer les dés. Après 1 mois consacré au plaisir, le héros prit congé de Bhima et, suivi de Damayanti, il s'en alla demander une revanche à l'usurpateur Pushkara. Inutile de dire qu'en une seule partie il reconquit son royaume et gagna non seulement les richesses, mais la vie de son adversaire. Plus généreux que Pushkara, il n'abusa pas de sa victoire et renvoya son frère comblé de cadeaux. À dater de cette époque, la fortune sourit constamment à Nala. Il avait payé sa dette au malheur et expié le bonheur d'avoir été préféré aux dieux par Damayanti. Les hommes énergiques que fut la prospérité ne s'abandonnent jamais au désespoir et savent un jour ou l'autre triompher des destins contraires. Fin des contes et légendes de l'Inde ancienne par Mary Summer.